Aujourd'hui encore, nous allons nous pencher sur cette question de notre choix du Seigneur. La semaine dernière, si c'était à l'étude biblique ou si c'était dans la prédication de dimanche, nous avons regardé cette question d'hériter le royaume éternel de Dieu. Et on a vu dimanche dernier l'importance de faire ce choix de suivre le Seigneur si nous voulons hériter ce royaume, devenir héritier de Dieu. Et donc aujourd'hui, nous allons voir les implications de ce choix. Qu'est-ce que cela veut vraiment dire, faire le choix de suivre Jésus-Christ, faire le choix de reconnaître l'Éternel comme notre Dieu. Et donc, nous allons trouver que la Bible nous montre à quoi ressemble ce choix dans notre vie, et que la Bible nous montre qu'effectivement, il est avant tout un choix pour la vie, un choix de vie que nous prenons si nous décidons de suivre Jésus et de le reconnaître comme notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, lisons ensemble dans Galates chapitre 5, versets 13 jusqu'au verset 25. Frères, et bien évidemment, on peut ajouter sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ce choix que nous faisons donc, qu'on a regardé déjà dimanche dernier, est un choix conséquent qui pénètre tous les domaines de notre vie. Alors certes, le message de l'Évangile, cette bonne nouvelle que les apôtres ont commencé à annoncer après Jésus et qui est arrivée jusqu'à nous pour que nous puissions être sauvés, nous dit que nous accédons à la grâce de Dieu qui fait de nous des héritiers au moment où nous choisissons de placer notre foi en Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ et nous devenons des héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Romains chapitre 5, les deux premiers versets nous disent « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc la Bible nous dit que le seul moyen d'être sauvé, donc le seul moyen d'être en paix avec Dieu, le seul moyen donc de devenir héritier de Dieu, d'avoir cette espérance de la gloire de Dieu, cette espérance de vivre avec Dieu dans son royaume, lorsqu'il reviendra établir son royaume éternel, c'est d'être justifié par la foi que nous plaçons en Jésus-Christ. Croire que Jésus-Christ s'est établi sacrifice pour nos péchés, qu'il est mort à notre place sur la croix et qu'il est ressuscité pour nous permettre d'entrer dans cette vie éternelle. Que si on place notre foi en Jésus-Christ, donc nous avons la paix avec Dieu, grâce à lui nous avons accès à la grâce de Dieu qui lui nous dit « Aujourd'hui tu es devenu mon enfant et tu entres dans mon royaume ». Il y a donc, comme on a vu le dimanche dernier, une grande importance attachée à ce choix de suivre Jésus-Christ. Mais finalement, beaucoup de choses dépendent de ce qu'on met derrière ce mot et derrière cette notion de choisir Jésus-Christ. La Bible nous montre clairement qu'il ne s'agit pas simplement de question de juste lever la main dans une réunion à l'église, et puis de continuer à vivre sa vie comme avant, en attendant le jour où on héritera le royaume. Lorsqu'on parle de choisir de suivre Jésus, de choisir Jésus comme notre sauveur, on parle d'un choix beaucoup plus conséquent que juste de dire « Oui, moi je veux bien choisir, je veux bien avoir la vie éternelle, mais je veux bien continuer mon train de vie d'avant, le temps d'attendre d'hériter le royaume. » Finalement, le choix de prendre Jésus comme sauveur se fait pas tellement juste par le fait de lever la main, mais par notre choix de vie, par notre manière de vivre, par le fait de mettre la parole de Dieu en pratique, nous choisissons de suivre Jésus-Christ. Si c'est Galates 5 que nous venons de lire, ou si c'est 1 Corinthiens 6 que nous lirons dans quelques instants, tous les deux passages soulignent le comportement de ceux qui n'hériteront point le royaume. L'apôtre Paul, en quelque sorte, écrit aux chrétiens en disant « Vous avez voulu choisir Jésus-Christ pour devenir héritier de Dieu. Vous avez voulu accepter cette grâce que Dieu vous offre de faire de vous des héritiers du royaume. » Héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ, très bien, mais donc, réfléchissons à ce que cela implique, aux conséquences de dire que vous voulez faire ce choix, et reconnaissons que donc, d'abord, il y a certains comportements qui sont les comportements de ceux qui n'hériteront point le royaume. Et si donc nous savons que tel comportement, c'est le comportement de ceux qui n'hériteront point le royaume. Si nous, par la foi, nous croyons être les héritiers du royaume, alors forcément, nous savons que notre comportement ne doit pas correspondre à cela. Un exemple très bête, mais que j'emploie souvent. Si en tant qu'anglais, je viens au Luxembourg et je dis « Ah bah, moi je conduis toujours sur la gauche, je suis anglais, je vais vite avoir des problèmes. » Parce que tel n'est pas le comportement de ceux qui habitent au Luxembourg. C'est peut-être le comportement de ceux qui habitent dans mon pays d'origine. Mais je ne peux pas dire « je change de pays ». Mais je continue à garder mes habitudes d'avant. Je continue à conduire à gauche parce que j'ai appris à faire comme ça. Et chez moi, tout le monde fait ça. Donc, je vais continuer à suivre ce chemin-là. J'ai changé de pays, donc je reconnais que ce n'est pas le comportement du pays où j'habite maintenant. Paul nous dit la même chose en ce qui concerne le royaume de Dieu. Il dit, il y a certains comportements qui sont les comportements du monde d'où vous venez. Des gens qui n'héritent point le royaume de Dieu. Par contre, en venant à Jésus-Christ, vous êtes devenu héritier du royaume de Dieu, vous êtes entré dans le royaume de Dieu, donc forcément, vous devez abandonner le comportement que vous aviez avant, qui est le comportement de ceux qui n'héritent point le royaume de Dieu, si vous avez vraiment cette foi, cette conviction que Dieu a fait de vous héritier de son royaume. Sinon, par votre comportement, vous êtes en train de dire, au fond de moi, je crois être toujours ce que j'étais avant. Je crois être resté dans le royaume ancien, dans le royaume du monde. En tout cas, si moi je roule à gauche, je suis en train de dire, on me dit que je suis au Luxembourg, mais je ne crois pas, je crois que je suis toujours en Angleterre. Donc Paul souligne le comportement de ceux qui n'hériteront point le royaume pour dire, vous avez fait un choix, que votre choix soit conséquent. Acceptez les conséquences de ce choix que vous voulez faire et mettez ce choix en pratique dans votre vie de tous les jours. Reconnaissez par la foi que vous croyez que vous êtes devenu héritier de Dieu. Sinon, vous proclamez que vous ne croyez pas réellement être dans le royaume de Dieu, vous croyez être encore dans le monde. Donc, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. « Mais ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ?» Il est en train de reprocher aux chrétiens, en disant dans le verset 8, « Mais c'est vous qui commettez l'injustice. » Mais ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Donc comment pouvez-vous continuer à commettre l'injustice si vous savez que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Vous dites d'un côté que vous êtes héritier du royaume de Dieu, mais vous proclamez de l'autre côté par votre comportement que vous n'êtes pas héritier du royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Le choix donc de suivre Jésus-Christ pour devenir héritier du royaume est un choix conséquent et un choix pratique car cela implique des changements de comportement et de pratique dans notre vie. Et ce qui est frappant lorsqu'on lit ces passages, c'est de se rappeler que l'apôtre Paul adresse ces remarques-là aux chrétiens. Il n'est pas en train de parler aux gens du monde en disant « Si vous voulez venir à Christ, il va falloir que vous changiez de vie. » Il est en train d'écrire à des chrétiens, à des personnes qu'il vient d'appeler frères. Dans Galates 5, nous avons vu le passage qu'on a lu commencer par frère, mais frère, ce que vous faites actuellement n'est pas bon, dit Paul. Parce que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de cette réflexion que vous avez entamée en entendant l'évangile. Vous n'êtes pas en train de vivre conformément à l'évangile qui vous a été annoncé et que vous avez, dans lequel vous avez cru. Vous êtes en train de copier le comportement encore de ceux qui n'héritent pas le royaume. Donc, d'un côté, cela nous montre que, On a beau être chrétien, on a beau être baptisé, on a beau être rempli de l'Esprit, la tentation ne disparaît pas comme par magie. La tentation à commettre ces choses est encore là. La possibilité de faire ces choses ne disparaît pas pour autant, mais c'est à nous de l'abandonner, d'effectuer ce changement dans notre vie avec l'aide de l'Esprit de Dieu, mais par la foi, en disant, puisque je crois que Dieu a fait de moi citoyen de son royaume, héritier de son royaume, je vais maintenant le montrer par mon style de vie. C'est ce que la Bible appelle finalement la repentance. Rappelons-nous, Actes chapitre 2, versets 37 et 38. Première annonce de l'évangile par les apôtres le jour de la Pentecôte. Lorsque Pierre termine sa prédication, les gens, après avoir entendu, eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ?» Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. » Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Que devons-nous faire maintenant si ce que tu viens de dire est vrai? Pierre dit, repentez-vous. Choisir Jésus comme sauveur. Vouloir devenir héritier du royaume de Dieu donc implique la repentance. La repentance, ça commence par reconnaître ce que Dieu pense de nos comportements, ce que Dieu pense de nos valeurs, de nos pensées, de ce qu'on fait, et de reconnaître que donc, aux yeux de Dieu, nous avons péché. Si on ne commence par là, on ne peut pas être sauvé parce qu'on a besoin de reconnaître qu'on a besoin du Sauveur, qu'on a besoin de Jésus-Christ mort pour nous ramener à Dieu, pour sacrifice pour notre péché. Après, donc, ça passe par le regret qui est né de la tristesse de reconnaître que nous avons péché et que notre comportement offense le Seigneur, que nous sommes coupables devant lui. Cette reconnaissance de ce que Dieu définit comme bien et mal. Et finalement, cela nous ramène jusqu'aux origines du péché. Adam et Ève ont voulu s'approprier le pouvoir de reconnaître le bien et le mal, qui était donc le rôle de Dieu de définir le bien et le mal. Et l'être humain, depuis, cherche toujours à dire « je rejette ». Ce que Dieu dit, et je veux prendre pour moi l'autorité de définir ce qui est bien de ce qui est mal. Alors qu'au fond, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. On doit donc reconnaître cela, on regrette le fait de ne pas être à la hauteur. Et on reconnaît qu'on a besoin des sacrifices de Jésus pour être en paix avec Dieu. Et à cause de cela, puisqu'on reconnaît maintenant ce que Dieu définit comme bien, parce qu'on ne veut plus faire offense à notre Père, la repentance passe aussi par le fait de faire demi-tour. Et quand on regarde dans les langues d'origine ce mot « repentance », il y a aussi cette notion de faire demi-tour, de changer de comportement. Comme Paul dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 6, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais, donc, c'était votre comportement, c'était votre style de vie, c'était votre choix de vie, mais vous êtes venu maintenant à Jésus-Christ. Vous n'êtes plus à vous-même. Désiré nous a lu tout à l'heure ce verset dans Galates également, dans Galates 2, où Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus ma vie à moi pour en faire ce que je veux. Un des slogans qui était sorti de la révolution sexuelle des années 60, c'était « Mon corps m'appartient ». Peut-être, mais pas si on est chrétien. En tant que chrétien, on ne peut plus dire « Mon corps m'appartient et j'en fais ce que je veux parce que mon corps maintenant appartient à Christ ».
Amen.
Mon corps devient le temple du Saint-Esprit. Ce n'est donc plus à moi de décider ce que je vais en faire. C'est à lui de me dire ce que je vais en faire. Peut-être cela ne plaît pas à nos valeurs et à notre ego, mais Dieu n'a rien à faire de nos valeurs et notre ego. Il dit vos valeurs et votre ego, vous pouvez le clouer à la croix. Parce que finalement, si vous voulez venir à moi, si vous voulez que je vous rachète, très bien, mais je vous achète pleinement, entièrement. Tout ce que vous êtes maintenant est à moi. Donc choisir Jésus-Christ implique cette repentance. Ce qui est frappant aussi, non, c'est non seulement que Paul écrit ici aux chrétiens en disant « Mais réfléchissez à qui vous êtes, à ce que vous êtes devenu en Jésus-Christ. » C'est aussi frappant de voir les comportements mentionnés. Alors quand il s'agit du début de la liste, on hoche sans doute tous la tête et on dit « Oh oui, 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 c'est gens terribles, oui, oui, oui. » Mais quand on poursuit la liste, ça devient beaucoup moins confortable, n'est-ce pas? Donc, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, non plus ceux qui volent des autres, mais ceux qui ont envie de ce qu'ont les autres. Ou ceux qui aiment bien faire lèche-vitrine en disant « Oh, j'aurais bien ça, je verrais bien ça chez moi, je voudrais ça. » Ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mais Galates aussi n'est pas triste dans la liste que Paul nous donne. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. Oui. Les rivalités. Traiter un membre de la famille, traiter nos voisins, traiter nos collègues comme des rivaux. Le cœur humain est tellement tordu que même dans notre vie chrétienne, nos frères et sœurs peuvent devenir rivaux. Ah, je vais leur montrer que moi je suis plus spirituel que lui. Les querelles. Paul nous dit que quereller fait partie du comportement de ceux qui n'hériteront point le royaume de Dieu. Les jalousies. Mais non, c'est mon péché mignon, c'est pas grave. C'est pas vraiment un grand péché, je suis juste un peu jaloux. Comment ça se fait que lui, il a cette belle voiture ou cette belle maison, que lui, il n'a jamais de problème, c'est pas juste. Les animosités. Ah ben, c'est lui, il est là, moi, je n'y vais pas. Les disputes. Les divisions, les sectes. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Ah ben si Dieu va commencer à se mêler de ce que je mange. Et puis au cas où, vous lisez cette liste en disant « Ouf, Dieu n'a pas mis le doigt sur mon petit péché à moi », Paul termine par « Et toutes les choses semblables ». Donc personne n'y échappe. On pourrait aussi ajouter Éphésiens chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, on commence avec cette base de Jésus-Christ qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme offrande et comme sacrifice de bonne odeur pour notre vie. Donc, que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propose insensé ou équivoque, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Le Seigneur, c'est aller jusqu'au cœur des choses. Maintenant, il dit, la cupidité, c'est plus que juste le désir, c'est de l'idolâtrie. Et forcément, aucun idolâtre n'héritera le royaume de Dieu. Alors, heureusement, dans chaque passage, Paul ajoute une bonne nouvelle. À chaque fois qu'il met le scalpel pour nous révéler qui nous sommes et à quel point nous sommes encore loin de l'objectif, à quel point nous avons encore besoin d'appliquer ce choix dans notre vie. Il nous montre donc la bonne nouvelle. On vient de lire dans Éphésiens 5 qu'on ne doit pas oublier que Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Dieu nous offre sa grâce. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, c'est là ce que vous étiez, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il dit en fait, ce n'est pas que Dieu veut être là comme grand juge avec un bâton pour nous taper dessus. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on entre dans la plénitude de ce qu'il a prévu pour nous, de ce qu'il sait être bien pour nous. Il veut qu'on soit vraiment citoyen de son royaume. Il veut qu'on soit vraiment libéré du fardeau du péché. Il veut qu'on soit vraiment ces enfants qui vivons dans la liberté que le Fils de Dieu est venu accomplir pour nous. Vous avez été lavés. Vous n'avez plus besoin de vivre dans votre saleté. Parce que Dieu vous a lavé, Jésus-Christ. Il vous a changé. Il vous a justifié. Dans Galates chapitre 5, dans le verset 16, il dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Venez à Jésus-Christ qui vous a aimé et qui s'est livré pour vous. Marchez selon l'Esprit et alors vous serez réellement héritier du royaume. Vous n'aurez plus de doute, vous n'aurez plus ces occasions pour l'ennemi de venir vous faire douter, pour venir remettre un tas de culpabilité sur vous, parce que vous n'accomplirez pas les désirs de la chair si vous êtes en train de marcher par l'esprit. Lorsqu'on lit ces listes des caractéristiques de ceux qui n'hériteront point le royaume, je pense, si nous sommes honnêtes, aucun d'entre nous ne peut lire cette liste très confortablement en disant « Ah oui, ça c'est les autres. Moi je ne suis pas concerné. » Ça rappelle, n'est-ce pas, Jean chapitre 8, lorsque on voulait lapider cette femme prise en flagrant délit d'adultère. D'ailleurs, comme disent beaucoup de commentateurs sur ce passage, on ne sait pas comment il n'y avait que la femme qui ait pu être prise en flagrant délit. Ce n'est pas normalement quelque chose qu'on fait tout seul. Mais donc, Jésus leur a dit ben, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Lorsque on se trouve confronté par le Seigneur, par sa parole, on se rend compte qu'on est nettement moins saint qu'on aimerait faire croire. Mais la Bible nous dit que nous devons prendre notre péché au sérieux. Ce n'est pas juste une faiblesse, juste un petit problème, ou juste quelque chose où finalement, bon, la grâce de Dieu couvrira mon péché de toute façon. Paul dit dans Romains 6, verset 15, « Quoi donc ? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce ? » Loin de là. Ce n'est pas possible de dire « C'est pas grave. » Finalement, Dieu ne fera pas d'histoire pour ça. La Bible nous encourage si par la foi, nous croyons qu'il a fait de nous ses héritiers. La Bible nous dit de venir à lui. Parce que si nous repentons de nos péchés, dit la Bible, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais cela implique cette repentance, de reconnaître mes fautes, de reconnaître que lorsque je fais telle chose, j'ai tort et Dieu a raison. Que telle chose n'a pas de place dans la vie d'un héritier du royaume de Dieu. Peut-être il va falloir encore que je me batte contre cela toute ma vie avec l'aide de Dieu. Mais à chaque fois, je dois reconnaître que j'ai tort et venir à lui et lui le confier. Je ne peux pas dire c'est pas grave. Évidemment, bon, c'est pas grave si en rentrant je prends l'autoroute dans l'autre sens sur le côté gauche. Tout le monde chez moi a conduit comme ça, donc pourquoi je ferais autrement? Tel comportement, dit Paul, c'est le comportement de ceux qui n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc si par la foi, je crois que Dieu a fait de moi héritier du royaume, pourquoi je continuerai à me comporter comme si ce n'était pas vrai? Comme si Dieu n'avait pas fait de moi héritier de son royaume? Comme si j'étais encore parmi ceux qui n'hériteront point le royaume de Dieu? Même... Donc, si nous sommes chrétiens, puisque Paul écrit ses lettres à des chrétiens, profitons de l'offre de la grâce de Dieu. Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Si le Saint-Esprit nous montre que tel aspect de mon comportement n'est pas conforme au royaume dans lequel je crois que Dieu m'a placé, que tel aspect de mon comportement n'est pas conforme à quelqu'un qui vit sous la grâce de Dieu, qui est devenu héritier du royaume par la grâce de Dieu, le Seigneur me donne l'occasion de me repentir, de reconnaître que j'ai tort, de reconnaître que c'est grave, mais de reconnaître que Christ s'est livré lui-même à Dieu pour moi à cause de cela, pour que je puisse être lavé, justifié, sanctifié. Et choisissons de faire demi-tour. Dire, ah ben Seigneur, si telle chose c'est le comportement de ceux qui n'héritent point le royaume de Dieu, mais que je crois que tu m'as dit que je suis devenu héritier, alors j'abandonne cette manière de faire. Et je change pour accepter ce que tu me demandes de faire. Vous savez, même parfois après des années d'avoir conduit sur l'autre côté de la route, si vous prenez une toute petite route de nuit, quand il n'y a personne, parfois vous êtes là et vous êtes en train de dire, est-ce que je suis sur le bon côté ou est-ce que je suis sur le mauvais côté? Parfois,
c'est les cerveaux.
On se dit, mais attends, qu'est-ce que je viens de faire? Si je suis héritier du royaume, je ne devrais plus faire ça. Et pourtant, je l'ai fait. À ce moment-là, le Seigneur nous invite. C'est pour ça que Paul souligne ces choses aux chrétiens. Pour dire, abandonnez ces choses. Venez à Dieu, changez de comportement. Quelle que soit l'étape de notre vie chrétienne. C'est ça la repentance. Et s'il y a un péché en particulier qui nous domine, il nous dit que nous pouvons demander au Saint-Esprit de nous aider, de produire en nous son fruit. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Faisons donc ce choix. On a déjà vu dimanche dernier, ce choix de suivre Jésus-Christ, ce choix d'entrer dans son royaume, de faire la paix avec Dieu par Jésus, mais faisons que ce choix soit un choix conséquent, qui reconnaît que Dieu a racheté notre vie en entier, avec notre corps, avec nos valeurs, avec nos pensées, avec nos points de vue, avec tout ce que nous sommes. Faisons de ce choix un choix pratique, en changeant de comportement à la lumière de ce que Dieu nous a dit avec l'aide de son esprit. Faisons de ce choix un choix personnel. Chacun d'entre nous, nous avons des domaines où le Seigneur a encore du travail à faire. Différent pour chacun. Pas pire, pas meilleur. Mais où le Seigneur désire nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Devenez imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Nous pourrons dire « je ne suis pas concerné » le jour où notre vie ressemble parfaitement à la vie de Jésus-Christ. En tout cas, je reconnais qu'il est pour moi, il reste beaucoup de chemin à faire. Quand je regarde Jésus-Christ dans la parole de Dieu. Alors ce matin, que nous puissions faire ce choix, mais faire un choix conséquent, pratique et personnel. Donc je propose qu'on puisse passer quelques moments devant le Seigneur, se regardant dans le miroir de sa parole, en permettant au Saint-Esprit de nous montrer là où il veut nous adresser la parole, comme il a adressé la parole à travers Paul aux Galates, aux Éphésiens, aux Corinthiens. Le Saint-Esprit veut nous adresser aussi la parole, parce qu'il veut produire en nous les mêmes changements, parce qu'il désire que nous soyons des enfants bien-aimés de Dieu. Et il dit pour cela donc qu'il y ait des changements qui reflètent ce statut que vous avez reçu, qui reflètent cet héritage dans lequel vous êtes entré. Ce matin, si le Saint-Esprit nous révèle quoi que ce soit dans notre vie dont nous devons nous repentir, ou peu importe si nous en aimons ou non, Dieu nous dit que lui n'aime pas, faisons ce choix aujourd'hui de nous en repentir. Frère, que ferons-nous? Pierre a répondu, repentez-vous. L'apôtre Paul écrit à des frères et sœurs en leur disant, vous avez encore besoin de vous repentir. Que nous puissions le faire ce matin pour dire, Seigneur, je te choisis, je fais ce choix de te suivre parce que je crois que tu veux faire la paix avec moi, je crois que tu veux faire de moi l'héritier de ton royaume. Et donc j'abandonne le comportement de ceux qui n'héritent point le royaume de Dieu pour adopter le comportement de ceux qui sont devenus co-héritiers de Jésus-Christ. Aide-moi donc par ton esprit à devenir imitateur de Jésus-Christ. Matin donc, si tu veux faire ce choix, personne d'autre n'a besoin de savoir de quoi il s'agit précisément, parce que tous nous nous retrouvons à un moment ou à un autre, un point ou à un autre dans ces comportements, dans ces listes. Je vous invite à faire ce choix en vous levant devant le Seigneur, non pas que ce choix se limite à ce moment de quelques secondes de vous, mais comme signe devant le Seigneur et comme engagement de votre part devant le Seigneur en disant, Seigneur, je veux faire ce choix. Je veux changer de comportement. Je me repens de ces choses dans ma vie qui sont en contradiction avec ma foi. Et je demande ton aide pour les abandonner, pour que ma vie proclame que je suis lavé, que je suis sanctifié, que je suis justifié. que je suis héritier de ton royaume.